Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Olivia Gakima.
Vous êtes bien sur la radio Inzamba Agate Kakawe, c'est le moment du journal. Tout d'abord les titres. La France n'aurait pas dû accepter d'accueillir Gervais Ndirakobucha sur son sol. C'est l'indignation exprimée par l'organisation Initiative pour les droits de l'homme au Burundi. Pour l'IDHB, le Premier ministre accusé de graves crimes devrait être refusé l'accès à l'espace européen. Et puis, l'insécurité qui règne au sein de la prison centrale de Rutana inquiète les détenus. Ces derniers pointent du doigt le directeur de cet établissement qui autorise la vente d'alcool à l'origine de bagarres récurrentes. Le Conseil supérieur de la magistrature semble perdu dans sa mission sur le terrain auprès des tribunaux. Des magistrats fustigent une attitude loin d'être professionnelle, où les membres de ce conseil confrontent des magistrats aux justiciables sur des dossiers déjà clos. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Et encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est une honte que l'Union européenne ait accueilli le Premier ministre burundais. Gervais Ndirakobucha participe en effet dans un sommet à Paris, en France. Karina Terzakian, chercheuse au sein de l'Initiative des droits humains au Burundi, dénonce sa présence sur le sol français, étant donné qu'il est accusé de violations graves de droits humains dans son pays. On l'écoute.
Nous avons publié ce communiqué pour dénoncer la présence du Premier ministre du Burundi à ce sommet international à Paris et pour mettre la lumière sur le passé sanglant de ce personnage. Je pense que tous vos auditeurs burundais connaissent bien Gervais Ndirakobucha, surnommé Dakugarika, je vais te tuer. Car personne ne peut oublier sa brutalité, son implication personnelle dans des meurtres et des actes de torture pendant la crise de 2015 et bien avant, alors qu'il occupait des postes de responsabilité à la police, au service national de renseignement et la présidence. Aujourd'hui, Ndirakobucha tente de se présenter comme un homme politique respectable, donnant l'impression de soutenir les réformes promises par le président Ndayishimiye. Mais cela ne change rien à ce qu'il a fait dans le passé. Comme nous, beaucoup de Burundais sont scandalisés par le fait qu'il puisse se promener librement en Europe et que la France lui ait permis d'assister à ce sommet. Surtout qu'il y a moins d'un an, Ndirakobucha était toujours sous le coup de sanctions de l'Union européenne pour le rôle qu'il a joué dans la violente répression des manifestants et d'opposants au gouvernement en 2015. En octobre 2022, l'UE a levé ses sanctions après que Ndirakobucha a été nommé Premier ministre. Et pourtant, de graves violations des droits humains persistent au Burundi. Et aucun des hauts responsables qui ont commis ou ordonné des crimes graves en 2015 n'ont été traduits en justice. L'UE a donc choisi de renforcer ses liens avec le gouvernement burundais plutôt que de demander justice pour ces crimes. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, en accueillant l'un des principaux auteurs de ces violations, la France a tourné le dos aux victimes d'exécutions extrajudiciaires, de tortures et d'autres crimes graves au Burundi.
Karina Terzakian, chercheuse au sein de l'IDHB. Les détenus de la prison de Rutana s'inquiètent de l'insécurité qui règne à l'intérieur de cette maison pénitentiaire. Certains détenus s'enivrent et causent des torts à l'intérieur de la prison. Les détenus accusent le directeur de cette prison de Rutana et certains responsables des prisonniers d'être derrière ce commerce illicite des boissons. Suivez ce reportage de Jean-Marie Ndarashinze.
Les informations recueillies à l'intérieur de la prison de Rutana nous indiquent que le commerce de ces boissons occasionne beaucoup de cas d'ivresse à l'intérieur de la prison qui, à la fin, provoque des scènes de perturbation de la sécurité. À titre exemplatif, avant-hier, un détenu qui avait bu un verre de trop a blessé ses deux collègues. Nos sources nous informent aussi que son commerce illicite est fait par le directeur de cette prison de Rutana en collaboration avec certains prisonniers membres du parti de DFDD. Cette situation inquiète les détenus et le personnel de la prison.
Les
Les détenus, nous constatons que la cause de cette insécurité, c'est l'ivresse occasionnée par la vente de ces boissons. Aujourd'hui, la situation est grave. Avant-hier, deux collègues ont été blessés par un autre détenu qui était ivre. Heureusement, les deux ont été soignés. Les détenus proposent le remplacement du responsable des prisonniers et du directeur de la prison pour espérer le retour de la sécurité. Nous pensons que les deux sont derrière cette insécurité qui règne ici. Si rien n'est fait dans l'immédiat, nous pouvons assister au pire.
Face à cette situation, les détenus demandent aux autorités habilitées d'intervenir avant que la situation ne dégénère.
Les détenus demandent aux responsables pénitentiaires au niveau national de procéder au changement dans la direction de la prison de Lutana. Comme je le vois, il n'y a pas une autre solution pour amener la tranquillité ici dans la prison. Il faut transférer ailleurs les responsables de la prison et certains responsables des détenus. C'est la seule solution. Je connais cette prison, je sais de quoi je parle. Les problèmes que l'on voit ici sont causés par la mauvaise gestion par les autorités de la prison et responsables des détenus.
À ce sujet, la rédaction de la radio Indamba, Agathe Kakawe, a cherché la réaction du directeur de la prison de Lutana, mais sans succès.
Merci Jean-Marie Ndabashinze. Des magistrats burundais déplorent ce qu'ils qualifient de bavure commise par le Conseil supérieur de la magistrature. Cet organe est en train d'effectuer des descentes dans les provinces pour faire confronter les magistrats aux plaignants sur des procès déjà exécutés, ce qui, selon les magistrats, enfreint la loi. Les magistrats demandent plutôt à ce conseil de se conformer aux différents textes qui régissent l'organe judiciaire au Burundi en accomplissant leur mission. Écoutez ce magistrat.
Les membres du conseil supérieur de magistrature effectuent des descentes dans les cours et tribunaux après avoir invité les justiciables ayant déposé leurs plaintes devant cette institution. Arrivés sur le terrain, ils convoquent les magistrats pour s'expliquer devant les justiciables à côté et font une confrontation. Un véritable débat contradictoire, chose inadmissible. Donc, c'est-à-dire que c'est le président de la République lui-même, à travers le Conseil supérieur de magistrature, qui exerce directement les fonctions reconnues au pouvoir judiciaire. Et finalement, on trouve que cette institution n'existe plus. Quand les juges et les justiciables sont mis au même pied d'égalité et comparaissent devant une institution pour plaider des missions directes du pouvoir exécutif, en fonction du pouvoir judiciaire, c'est une violation de la Constitution. Normalement, comme il est déjà dit, le Conseil supérieur de la magistrature enquête si les mal jugés manifestent et coulent en force de choses jugées. Les affaires devenues définitives. Mais pour le moment, même les affaires susceptibles de recours sont portées devant cette institution. C'est ici qu'on trouve un juge du tribunal de grande instance venu de s'expliquer pour une affaire pendante devant la cour d'appel. Ils sont immédiatement supérieurs. On trouve les juges de la cour d'appel qui s'expliquent pour les arrêts rendus avant faire le droit. C'est inimaginable, le jugement des décisions provisoires. C'est une violation du code d'organisation et de la compétence judiciaire. Et c'est pourquoi les juridictions sont hiérarchisées. Pour le moment, ça ne veut rien dire. Les affaires susceptibles au recours, elles sont portées devant l'institution du Conseil supérieur de magistrature. Parce que c'est une institution qui a la garantie devant le président de la République. Cette institution vient de plus en plus forte. C'est la terre aux magistrats. Nous constatons que tout ça est en violation de la Constitution et des lois en vigueur au Burundi. Ces pratiques devraient cesser.
Inzamba.
La liberté de la presse au Burundi a été bafouée pendant les trois premières années d'Evariste Ndayishimiye au pouvoir. Ceci ressort d'un communiqué de presse sorti ce jeudi par l'Union burundaise des journalistes. L'UBJ établit le bilan de l'actuel président sur le plan de la liberté de la presse. Alexandre Niyongeko, président de l'UBJ, indique que les propos de Ndayishimiye dès son arrivée au pouvoir envers les médias ne sont pas conformes à ses actes. Il explique que les journalistes sont toujours persécutés. Alexandre Niyongeko demande au président d'user de son pouvoir pour préserver la liberté de la presse au Burundi.
Alors que le président Ndayishimiye faisait miroiter l'apaisement dans les relations entre le pouvoir et les médias, trois ans après, rien ne semble se profiler à l'horizon. Le fameux slogan « Jamais sans la presse » n'est resté qu'en vœux-pieux, car les professionnels des médias au Burundi attendent toujours sa matérialisation. Sans être exhaustif, ces quelques cas démontrent le mépris ou les différences du régime Ndayishimiye à l'égard de la liberté de la presse. C'est en effet sous son régime que la journaliste Floriane Ilangabiya a été condamnée en janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Mukasa à 10 ans de prison pour des motifs fallacieux d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Et Floriane Ilangabiya est ainsi aujourd'hui la seule femme journaliste incarcérée sur tout le continent africain. C'est encore sous ce régime que quelques jours seulement après son accession au pouvoir, que la Cour suprême a condamné nos confrères à des peines de prison à perpétuité pour, soi-disant, avoir cofomenté un coup d'État contre le gouvernement. Non content d'avoir forcé des centaines de journalistes en exil, le pouvoir CNDD-FDD, sous la houlette du régime Ndayishimiye, a fait des responsables des médias sa monnaie d'échange pour le rétablissement des relations diplomatiques avec son voisin du Nord. Les attaques contre les journalistes dans l'exercice de leur profession n'ont pas cessé non plus sous l'œil complaisant ou complice du Conseil national de la communication. En guise d'illustration, il suffirait de mentionner le passage à tabac du journaliste du Burundi News par Désir Mbonerakure sous la supervision d'un administratif à Gihosha, au nord de Bujumbura. L'attitude du CNC n'est sans doute pas étonnant car l'exemple vient d'en haut. L'on se souviendra en effet des attaques verbales violentes du président Ndayishimiye contre des journalistes chevronnés, Esdras Ndikumana de la RFI et Antoine Kaburahe du groupe de presse Watch. On ne pourra passer sous silence la peur distillée à longueur de journée dans les rédactions, une peur qui a donné lieu à une autocensure plus que la censure elle-même. Malgré tous ces tracas, l'Union burundaise des journalistes reste convaincue que les médias restent un partenaire incontournable du pouvoir. C'est pourquoi nous appelons le pouvoir de Ndayishimiye de se ressaisir et de respecter les journalistes dans l'exercice de leur profession, car le journalisme n'est pas un crime.
C'était Alexandre Niyongeko, le président de l'UBJ. Pénurie de denrées alimentaires au marché central de Ngozi. Certaines boutiques sont fermées à cause du manque de certains produits, dont le manioc et ses dérivés. Cette carence est l'une des conséquences de la mesure prise par l'administration qui limite la quantité des approvisionnements dans les communes voisines pour les commerçants. Pierre Garungu pour les détails.
Certains des clients affirment que cette carence s'observe au marché central de Ngozi depuis quelques jours. Le manioc et ses dérivés, la farine de maïs, le haricot et consorts se raréfient. Des boutiques sont fermées et les moulins ne fonctionnent plus. Écoutez ce témoignage.
Je suis allé au marché central pour voir comment est la situation. La production manque, les récoltes manquent. Il y a beaucoup de boutiques qui n'ont pas encore ouvert. C'est des boutiques qui vendent le manioc sec.
Parmi les causes, la mesure limitant la quantité chez les commerçants lors des approvisionnements. Aussi, ajoute-t-il, le retrait bancaire plafonné à 300 000 francs burundais par jour n'est pas de nature à faciliter le travail des commerçants.
Le grand problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a d'autres microfinances comme la COPEC où on se limite à 300 000. Ils n'ont pas de liquidité pour acheter d'abord cette récolte. Ensuite, transporter cette récolte d'une commune à une autre, ça devient un grand problème. L'utilisation devient difficile. Et aussi, il y a un manque d'argent, de liquidité pour les acheteurs. Même ceux qui ont des vivres dans leur stock, les clients ne viennent pas en bonne quantité parce qu'il y a un manque de liquidité.
Face à cette situation, la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, a cherché Emmanuel Najansanze, gouverneur de la province de Ngozi, pour plus de lumière, mais sans succès.
Pierre Garungu, merci. On reste au nord du pays pour parler de cette grogne au sein des habitants du chef-lieu de la province Muyinga, qui ont des maisons sur la route nationale proche de l'entrée de la ville. Ils sont appelés à peindre leurs maisons en vue de la fête de l'indépendance du Burundi. Ceux qui ne le feront pas seront sanctionnés. Pour les propriétaires de ces maisons, cette mesure est arbitraire, surtout qu'ils font face aujourd'hui à une misère sans nom. Bon fils, Niyongere.
Les maisons érigées de part et d'autre de la route nationale numéro 6 située à l'entrée de la ville de Muyinga doivent être peintées en vue de célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Le conseiller de l'administrateur de la commune Muyinga, Lambert Minani, estime que c'est une bonne occasion pour démontrer la libération du Burundi du joug colonial.
pour montrer s'ils ont réellement obtenu leur indépendance et qu'ils se sont séparés de ce qu'ils opprimaient, qu'ils montrent que les pas franchis au niveau du développement. Il faut que la ville présente une bonne image et que les propriétaires des maisons qu'ils ont construites ces mêmes les peignent pour les rendre plus belles.
Un des propriétaires de ces maisons trouve que la mesure est trop lourde, malvenue car la situation économique des ménages est aujourd'hui morose. Il propose à l'administration d'initier d'autres travaux de propriété pour rendre la ville propre.
Oui, alors,
aujourd'hui, nous faisons face à une extrême pauvreté qui fait peur. Imaginez-vous une famille qui n'arrive plus à manger 3 fois par jour ou 2 fois par jour. Comment elle pourra avoir de l'argent pour acheter la peinture, pour peindre les maisons? Je pense que l'administrateur de la commune Muyinga peut chercher une autre solution alternative pour embellir la ville de Muyinga. Parce que la propriété de la ville, ce n'est pas seulement peindre les maisons qui sont sur la route, mais à l'intérieur de la ville. Si on regarde les bouteilles en plastique qui se trouvent dans les rues de la ville ou les canis plein d'immondices, ce sont des activités qui devraient être menées pour rendre la ville plus propre.
Vous saurez que dans un passé récent, les autorités ont pris une mesure pareille, mais trop peu de maisons ont été peintes.
C'est par vous, bon fils Niongere, que se termine cette édition. Merci à la rédaction de la Radio Inzamba, Agathe Kakawe, pour la production de ce journal. Un grand merci, surtout à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.